Poète au présent.
¿Cómo disolver una casa? La estructura de canela simple, sólida en la memoria.
Bonjour, nous sommes à 7 pour le festival. Ben voilà, vous êtes dans l'ambiance avec les voitures qui passent pas loin. À 7 pour le festival de poésie, c'est la dernière ligne droite pour ce festival de poésie. Nous sommes donc à 7 à Voix Vive de Méditerranée en Méditerranée, dans une petite cour, une petite maison de retraite qui nous accueille pour cette émission qui va durer une heure, en compagnie de Moubarak Wassat, qui nous vient du Maroc, d'Özdemir İnç, qui nous vient de Turquie, et de François Montmanex, qui est français. Et trois poètes qui vont nous parler de leur parcours de poésie, peut-être de leur parcours dans l'existence tout simplement. Cette émission va être diffusée sur différentes radios du Languedoc-Roussillon. De mémoire, je vais dire Radio Pays d'Hérault, Divergence FM, FM+, Radio Aviva, Radio Languedoc, et j'en oublie peut-être quelques-unes. Messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous avez déjà passé une longue semaine de poésie à rencontrer les publics, à vous rencontrer entre vous, certainement aussi peut-être à faire la fête certaines nuits.
Hein ?
Elle n'a pas été longue, elle a été courte. Alors François, ben tiens, justement, commençons par vous, attrapez le micro et pensez bien à parler devant parce qu'après les auditeurs ne comprennent rien à ce qu'on dit. François Montmanex, alors, poète français, quand on présente les choses comme ça, est-ce qu'on a tout dit ou on n'a rien dit ?
Oh ben on n'a pas dit grand-chose.
On n'a pas dit grand-chose.
Non, d'abord la poésie n'a pas de patrie. Je crois que ça c'est une manifestation comme celle-ci qui réunissant poètes venus de tous les rivages de la Méditerranée et d'au-delà, le prouve surabondamment. La poésie, c'est le contraire du nationalisme, hein, qui a fait assez de ravages comme ça au cours de l'histoire des hommes, et particulièrement de l'histoire récente, pour que on passe à autre chose, à quoi la poésie espère contribuer, et le prouve par son propre mouvement.
Y a-t-il, alors, quand vous parlez de nationalisme, y a-t-il une désespérance inévitable avant d'être poète?
Une désespérance, enfin,
ou une révolte peut-être?
Je sais pas. Enfin, non, moi
c'est l'éternel débat.
Je suis très en résistance. Et la résistance, c'est le contraire de la désespérance. Parce que pour résister, il faut un espoir. Et puis personnellement, je suis contre cette espèce de culte de la déglingue qui ici noircit tous les paysages, particulièrement en France, où je trouve que le culte du pessimisme, peu actif d'ailleurs, fait des ravages, et que la poésie est là pour proposer d'autres pistes. Elle n'est pas là pour dire dans la béatitude que tout va bien, loin de là. Puisque la poésie, au fond, on l'évoquait l'autre jour avec Özdemir, à propos de notre ami Alain Bosquet, qui disait « Aimer la poésie, c'est aimer le monde tel qu'il aurait pu être ». Et je crois qu'au fond, chaque poète doit avoir en lui, plus ou moins profondément, enfoui ou porté au jour, le désir de changer quelque chose. Oui, voilà.
Pendant que vous parliez, Gilles Gouget de Divergence FM nous a rejoint. C'est certainement les juilletistes et les haussiens qui se sont croisés, qui ont dû le retarder sur la route. Bonjour Gilles.
Bonjour à tous les auditeurs des radios qui couvrent cette première édition de Voix Vive en 2010. Alors deux de nos invités sont membres du comité international de coordination du festival. Ça prouve bien aussi que c'est un événement qui, après avoir vécu un petit peu plus au nord sur le même cours d'eau pratiquement, aujourd'hui SM fait des rencontres qui, selon vous, qui j'imagine être tous souvent sollicités pour participer à des événements autour de la poésie, ce rendez-vous particulier dans le département de l'Hérault, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Pardon. Cette rencontre, c'est très important pour moi parce que J'ai eu de la chance de rencontrer des anciens amis. Alors, ici, j'ai fait d'autres connaissances. Alors, chaque connaissance, une sorte de découverte, ouverture vers un autre monde. Grâce à la poésie, et j'étais toujours heureux parce que la poésie m'a donné la possibilité d'être humain, aimer les autres, connaître les autres, comprendre les autres. Ça me donne une sorte de sentiment de la liberté, égalité et fraternité, comme disaient les Français. Voilà.
Il paraît. Vous pensez qu'il faut... vous dites aimer les autres. Et sans poésie, on aurait du mal à aimer les autres.
Je ne sais pas. Il faut demander aux ingénieurs ou bien aux menuisiers. Mais nous avons la possibilité, par intermédiaire des vers, des mots. Alors, sans voir, par exemple, moi, je suis traducteur Rimbaud, et l'autre Rimbaud, mais je n'ai jamais vu. Ils sont comme mon frère. Mais paraît-il, Rimbaud, il est mort très, très tôt. Et maintenant, j'ai 74 ans, je me sens comme son père.
Et oui, vous parlez de deux poètes qui sont morts tous les deux très, très tôt, l'autre Rimbaud aussi.
Oui, c'est ça. Voilà. Une sorte de parenté profonde, humaine.
Alors vous parlez de deux poètes qui étaient eux aussi en résistance par rapport à la société, à l'ère dans laquelle ils vivaient.
Bien sûr.
Vous l'êtes aussi, vous, en résistance.
Mais écoutez, ils ont refusé le monde ou bien la vie telle qu'elle est, telle qu'il est. Ils ont voulu recréer le monde, recréer la condition humaine. Alors, moi, j'étais un révolté dans ma jeunesse, c'est-à-dire dans les années 60, 70. Alors, il faut être révolté, sinon on n'arrive pas à écrire des vers. Et sans révolte, c'est toujours d'être sous le joug du d'État, du gouvernement, des forces. Voilà, il faut se révolter. Mais à mon âge, on a parfois les résultats des révoltes. Parfois les prisons, parfois les prix, gloire, parfois d'argent même.
Alors c'est sûr que la révolte, elle s'exprime souvent dans la poésie, qu'elle soit versifiée ou pas. En même temps, se révolter, c'est quelque part se mettre soi en travers de quelque chose. Il y a peut-être une part de vanité là-dedans. Quand vous parliez de « c'est ce qui permet finalement d'aimer les autres », la poésie, c'est peut-être aussi surtout cette part de mise à nu qu'il y a dans le fait d'écrire. La muse, on n'en est pas toujours le maître. Beaucoup de poètes disent que ça nous tombe dessus quand ça vient. Après, c'est... on va dire l'érudition et le style et la technique qui permettent peut-être de donner une forme plus frappante. Est-ce que justement c'est pas ce phénomène qui nous échappe en tant que poète qui va faire que finalement on est plus humble et ça nous amène plus vers l'amour des autres aussi, même si la révolte est souvent aussi une condition, un déclenchement peut-être de l'écriture, hein, qui veut réagir.
Moubarak Ouassat.
Alors, vous avez parlé de muse, de désespoir, désespérance. Nous, dans la tradition arabe, pré-islamique, tous les poètes avaient leur djinn. Chacun avait son djinn, et c'est son djinn qui lui disait les poèmes. S'il avait un djinn fort, alors il était un grand poète, très fort. Tout ça, bien sûr, c'est... de la mythologie. Je sais pas. Peut-être parfois il y a des poèmes qui viennent comme ça qu'on écrit. En général, ils sont courts. Cela ne veut pas dire que ce sont les muses ou. Ça veut dire que ça a été travaillé d'une manière plus ou moins inconsciente. Mais il y a d'autres poèmes qu'on peut pas écrire comme ça d'affilée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail sur le texte. Il faut agencer un peu, sans que cela soit conventionnel, bien sûr. Et donc il y a un peu de tout cela. Bon, la question de la désespérance, je vois pas pourquoi les poètes seraient concernés par ça à eux seuls. Parce qu'il y a des gens qui sont désespérés, sont poésie, il y a des gens qui bien sûr sont comme les autres, qui ont l'espoir et tout, et qui sont poètes. Parce que cette image typique du poète, c'est-à-dire le poète maudit et tout ça, je crois que ça appartient un peu au passé.
C'est un cliché, on va dire.
C'est un cliché, voilà.
Quand on parle de poésie aux jeunes générations, eux aussi, pour eux, la poésie, c'est le truc pénible à l'école. Là aussi, finalement, c'est des clichés qui survivent. Alors que quand on leur dit non, la poésie, c'est quand tu fais du rap aussi. Mais souvent, il y a une étiquette un peu comme disait Dominica à propos de la chanson française, de vieux slip qui colle à l'idée de la poésie, peut-être telle qu'elle est montrée à l'école.
Non, mais on met des étiquettes sur les choses qu'on ne connaît pas. Donc, les gens qui ont aujourd'hui un a priori contre la poésie, 9 sur 10 d'entre eux n'ont jamais ouvert un livre de poèmes.
Pourquoi ?
Parce que... Comment ?
Alors, pourquoi ?
Pourquoi ? Faut leur demander. Moi, on charge beaucoup l'éducation nationale. On a peut-être pas tout à fait complètement tort. Mais il y a une chose, c'est que du plus profond de mes souvenirs d'enfance, on me présentait la poésie à travers les fables de La Fontaine. Bon, ça, je considère que c'est une erreur majeure. Parce que les bourrimés n'ont jamais fait à eux seuls la poésie. Et une fable, qu'est-ce que c'est ? C'est une morale. C'est une morale en action, car une fable sans conclusion morale n'est pas une fable, fût-elle d'Ossian, d'Ésope ou de La Fontaine. Donc, la poésie, c'est le contraire de ça, la poésie. Alors, la poésie, qu'est-ce que... Bon, on parlait tout à l'heure de cette espèce d'état par rapport à la poésie, mais on croise dans la rue plein de gens qui sont de grands poètes, plein de gens qui sont de grands peintres, mais ils n'ont jamais fait un poème, ils n'ont jamais peint un tableau. C'est ça la grande différence. Dans la poésie, il y a ce mot fondateur et fondamental qui nous vient des Grecs, qui est le poiein. Et la poésie, les muses, moi, je sais pas. Mais le travail, oui, car le travail de poésie est le bonheur fondamental. Alors, on travaille beaucoup à l'ordinateur maintenant parce que c'est pratique, mais le papier, la qualité du papier, la couleur du papier, le grain du papier, l'odeur de l'encre ou du crayon, ce sont des plaisirs fondamentaux de l'écriture. Comme pour le peintre, le grain de la toile, la préparation du fond, le choix de la palette, la respiration des essences, la douceur plus ou moins du pinceau, tout ça fait partie des bonheurs du travail d'écriture ou de peinture.
Un petit peu, oui, alors justement, c'est une question un petit peu qu'on peut vous poser à chacun d'entre vous, au-delà de l'outil informatique qu'on est un petit peu obligé d'utiliser pour des raisons, on va dire... pratique, quel est à chacun d'entre vous, est-ce que vous êtes un petit peu fétichiste, soit du crayon à papier, soit de la bille, soit du porte-plume, est-ce que quand vous écrivez à la main, vous avez une préférence particulière, un outil particulier, un papier particulier qui vous plaît plus ?
Pour la poésie, j'ai plusieurs cahiers. D'abord, je note avec le crayon, et puis, je passais, il y a 20 ans, à la machine à écrire, après maintenant, avec l'ordinateur, mais basé sur l'écriture, sur le papier. Et un jour, l'année dernière, nous sommes allés acheter un ordinateur à mon épouse. Vendeur m'a demandé... Est-ce que vous voulez jouer quel jeu ? J'ai dit à mon âge, on ne joue pas. Mon épouse aussi ne veut pas jouer parce que nous avons besoin de quelque chose de pratique pour écrire. Alors, moi, personnellement, contre l'ordinateur. Pourquoi ? Livre donner une idée de pression et, envers les autres. Avoir le livre, c'était une sorte de priorité. Il faudrait lire... pardon.
Ne vous inquiétez pas.
Ah ben... Montage, je sais. Alors,
non, ça ne sera pas remonté. Il n'y a pas de off sur nos radios.
Je continue. Alors, avec l'ordinateur, tout le monde est égal. N'est-ce pas? Parce que dans l'ordinateur existe tout le savoir. Mais, par exemple, j'ai presque 1 million d'articles à Internet sur moi. Mais 90% sont faux. Alors, voilà. Le livre, important, ça durait pour, toujours, à mon avis.
Moubarak, justement, alors, en ce qui vous concerne, quel est votre, votre outil particulier d'écriture?
Moi, j'utilise les deux. C'est-à-dire que au début, je dois écrire sur papier avec un stylo qui ne soit pas à billes, bien sûr, qui soit un stylo à plume et l'encre et l'odeur de l'encre, du papier. Et puis, une fois avancé ou une fois que j'ai le poème, je pense que je l'ai fini ou à peu près, alors je passe à une deuxième étape, je le copie pour ne pas le perdre. Parce que le papier, ça arrive qu'on le laisse quelque part. Moi, ça m'est arrivé. J'avais perdu quelques poèmes il y a très longtemps. Je ne les ai plus retrouvés. Mais la préférence va au papier. J'ai des livres aussi en fichier PDF, mais je ne les ai jamais terminés. Alors, c'est toujours le livre en papier.
Puis-je ajouter, en tant que poète, je préfère le papier. En tant que journaliste, j'ai toujours avec moi l'ordinateur. Voilà.
Non, mais il faut reconnaître, et puis le débat finalement n'a pas lieu d'être, parce que qu'est-ce que c'est l'ordinateur pour nous ? C'est un stylo différent, c'est tout. Mais c'est extrêmement pratique, parce que si vous voulez, quand on procède à la mise au net d'un état qu'on a beaucoup crayonné, moi je travaille au crayon, à la gomme et au papier souvent, et puis il n'y a rien de plus pratique, parce qu'on a ça sur soi aussi. Alors, quand passe la muse que vous évoquiez, quand elle fait comme ça coucou, oh, hop, on ouvre le carnet, on sort le crayon, c'est facile, et la gomme. Par contre, travailler la mise au net, la mise au propre, qu'attendent-nous l'éditeur, la revue, le journal, l'ordinateur est incomparable. Il faut bien le reconnaître, ça, on s'y est tous mis, parce que bon, c'est la disparition du carbone, hein, qui était un cauchemar, parce que vous corrigiez l'état de dessus, puis ce de dessous, ça devenait du charbon illisible. Aujourd'hui, c'est prodigieux, cette chose comme ça qui se déroule. J'allais dire, vous travaillez, c'est un langage vulgaire, c'est un langage technique, mais vous travaillez en temps réel. Même la poésie se travaille maintenant en temps réel. Ça ne veut pas dire que ça a prise sur la réalité, que ça agit sur la réalité, ce temps réel n'a rien à voir. Mais on voit finalement en permanence sous nos yeux le livre tel qu'il sera dans le texte auquel on travaille. Et ça, c'est une différence notable. Par contre, il y a un grand danger avec l'ordinateur. Moi, je participe à plusieurs jurys, notamment à l'Académie Mallarmé aux côtés d'Osdemir. Et à la ville de Lyon, nous avons créé en 1984 un prix de poésie qui était sur manuscrit. En 1984, donc bien avant l'ordinateur. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'ordinateur est arrivé? On a vu déferler des textes complètement inepte, où la forme avait pris le pas sur le fond, sur le contenu. le contenant l'emportait sur le... C'est-à-dire qu'on a vu arriver des poèmes formatés, le carré parfait, le parallélépipède parfait, le losange, le sablier, comme ça. Et les gens étaient contents, ils avaient l'impression qu'ils avaient fait de la poésie en formatant les choses. Et on a résolu, devant cette avalanche, de passer à l'éditer. Comme ça, le travail était fait par les éditeurs et nous, on travaillait sur des textes édités. C'est vous dire que ce n'est pas anodin, l'ordinateur, non plus.
Est-ce que ce n'est pas simplement aussi que cet outil, finalement, il s'est très vite répandu auprès de tout le monde et que ça a peut-être déclenché, avec une certaine candeur, voire une certaine mièvrerie, des envies de poésie.
Un prurite, oui. On peut tout à fait dire ça, oui. Non, c'est vrai, je le dis sans méchanceté. On a constaté les choses avec mes amis du jury, quoi. On a pris cette décision collectivement. Il était devenu impossible de traiter cette masse de documents, finalement informes, par abus de la forme.
Aujourd'hui, l'ordinateur, c'est aussi Internet, qui reste quand même encore aujourd'hui un outil de partage rarement égalé. Est-ce que le fait de pouvoir travailler à distance, entre poètes, avec son éditeur, avec ses collègues, est-ce que ça amène aussi, à votre sens, une plus grande facilité dans le croisement des personnes, des idées, puisque c'est quand même ça aussi qui fait souvent naître la poésie, la rencontre, le croisement?
Oh, bien sûr, cela facilite le contact Internet. C'est vrai que maintenant, on n'a pas à attendre beaucoup de temps pour faire parvenir son manuscrit à l'éditeur, pour que l'éditeur vous réponde et tout ça, ça se passe vite. Ça, c'est la technique en général qui facilite la vie d'une manière ou d'une autre. Mais ça, c'est très, très intéressant, bien sûr. Et ça vous donne, bien sûr, des moyens de contact avec les amis poètes. Et maintenant, on connaît plus de poètes, on se connaît entre nous. On est nombreux à se connaître entre nous, plus qu'avant.
Vous êtes sur Facebook ? Non, je sais pas, vous dites on est nombreux à se connaître, alors je me dis ça y est, ils ont fait un réseau sur Facebook.
Qu'est-ce que c'est Facebook?
D'accord.
Moi je parle français, hein. Ça c'est une chose qui m'irrite.
Facebook,
on va faire
alors, en français.
La partie d'usage sur la langue française, je prends 45 rognes par jour quand je vois le mésusage qui est fait par les Français eux-mêmes avec une espèce de talent, mais c'est l'autantimorumenos de Baudelaire, c'est-à-dire qu'on devient le bourreau de soi-même à propos de notre propre langue. Et l'ordinateur est un des outils de cette espèce de déliquescence de la langue française en face de ce qui n'est même pas la langue anglaise, qui est une espèce de volapuc technique comme ça, qui est en train de niveler le monde. Et ça sera une catastrophe le jour où les gens ne parleront plus qu'une seule langue et qui sera, on ne sait laquelle, hein, mais qui est propagée par ce...
On a l'idée que ça peut être l'anglais ?
Non, ça ne sera pas l'anglais. Non, ça sera une caricature de l'anglais, qui n'aura rien à voir avec celui de Shakespeare, malheureusement. Et chaque fois qu'une langue s'arrêtera, cessera d'être parlée, il y a un proverbe africain qui le dit magnifiquement, ce sera beaucoup plus qu'une bibliothèque qui disparaîtra. L'ennui naquit un jour de l'uniformité, a dit le cher Lafontaine. Hein.
Nous sommes à 7 au festival Voix Vive en compagnie de Moubarak Wassat qui nous vient du Maroc, d'Özdemir İnç de Turquie, de François Monmanex. Alors je dis France parce que vous êtes inscrit comme ça, hein, oui, sur le programme.
Mon nom dit que je suis d'origine catalane.
Oui, hein, voilà.
On est tous des immigrés.
Et en compagnie de Gilles Gouget et de moi-même Christian Cos. Pour Divergence FM, cette émission sera diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Aviva, Radio Languedoc, FM+, et si j'en oublie, je vous prie de m'excuser. On s'excuse par avance aux auditeurs de ces radios qu'on aura oublié de citer. On vient de terminer une première demi-heure de conversation. Alors, ce qu'on a dit, c'est que bon, ben, les poètes ne sont pas forcément désespérés. Voilà. Alors, peut-être pour cette dernière ligne droite qui nous amènera jusqu'au terme de cette rencontre, vous pourriez les uns et les autres préparer quelques textes dont vous pourriez nous régaler. Hein, ce n'est jamais mieux servi que par vous-même, en tout cas en matière de poésie. Alors, qui veut s'y coller, nous faire le plaisir de lire ou de dire, parce que vous les connaissez peut-être par cœur.
Moi, je dirais, lirais plutôt deux poèmes en turc, et mademoiselle va lire en français.
Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Alors, pendant que Özdemir Inç change de lunettes, récupère son écrit. C'est pareil, moi aussi, j'ai deux paires.
C'est l'âge.
Eh oui, 74, vous disiez.
Exactement.
Et vous ne jouez pas à l'ordinateur.
Alors, le titre de mes poèmes est août 1966. Le dernier mois dans le ventre de ma mère. C'est-à-dire mes souvenirs dans le ventre de ma mère. Et je suis né 1er septembre. C'est une aventure. Karnımın ortasında bir ağaç kökü var. Benden mi başlıyor, bana mı geliyor bilmiyorum. Göbeğimin ortasında bir çınar kökü bileğime dolanıyor bazen. Bir ulak mı bekliyorum? Bana bir haber getirecek. Yoksa benden bir haber mi beklemekte? Kim ve neden? Ben neyim? Özne mi? Nesne mi? Yüklem mi? Bir çekirdeğin, bir kozanın anımsıyorum içine girdiğimi. Kendime bir sığınak ararken serapta. Bilmediğim, görmediğim, duymadığım bir nesne. Ekmek ve eklemek için kendimi oraya sözünü ettiğim kök bu işe yarayacak. Haberci geldiğinde beni hazır bulacak yolculuğa. Kendimden kendime hicret edeceğim. Kendim olacağım göçebe çölü geçerken.
Au milieu de mon ventre, une racine d'arbre. Pousse-t-elle en moi ou bien vient-elle à moi? Je l'ignore. Dans mon nombril, une racine de platane qui parfois s'enroule autour de mon poignet. Attendrai-je un messager porteur d'une nouvelle? Ou bien est-ce de moi que l'on attend une nouvelle? Qui et pourquoi? Qui suis-je, moi? Un sujet? Un complément? Un verbe? Dans la graine, dans le cocon, je me souviens d'être entrée quand dans un mirage je cherchais un refuge. Cet objet inconnu, invisible, inaudible, cette racine dont je parle sera utile pour me semer là-bas. Quand le messager viendra, il me trouvera prêt au voyage. J'émigrerai de moi-même à moi-même en traversant le désert nomade. Je deviendrai moi-même.
Biri türkü söylüyor benim için dışarıda. Biri şarkı söylüyor benim için dışarıda. Biri ninni söylüyor benim için dışarıda. Göbek bağından geçip ezgi sarıyor etimi. Aynı şeyi ben yapsam, övsem ortağımı, ona güzellemeler yapsam, övsem onu, ona mersiyeler düşsem, övsem onu, göbek bağından geçip ulaşır mı ona ezgim? Ezgim ulaşmasa da yerine, sorum yanıtsız kalsa da, ağzımdan çıkmaz herhangi bir ağıt, ağzımdan çıkmaz herhangi bir şikayet.
Quelqu'un chante pour moi une chanson populaire dehors. Quelqu'un chante pour moi dehors. Quelqu'un fredonne pour moi une berceuse dehors. Du fil de mon nombril, le chant vient et enlace ma chair. Et si je faisais la même chose? Si je célébrais ma partenaire? Si je lui faisais des louanges? Si je la célébrais? Si je lui composais des élégies? Si je la célébrais? De mon cordon ombilical, mon chant l'atteindrait-il? Si jamais mon chant ne parvient jusque-là, même si ma réplique reste sans réponse, de ma bouche ne s'élèvera aucune complainte, de ma bouche ne s'élèvera aucune réclamation.
Ah, on est bien dans cette petite cour intérieure à 7 pour le festival Voix Vive. Alors les suivants, c'est qu'est-ce que vous nous proposez comme texte?
Merci. Outre mon épouse à qui indirectement ou pas, pratiquement tous mes poèmes sont dédiés, j'en lirai deux qui sont dédiés plus précisément à des dames. Elles ne sont jamais très éloignées des poètes. L'un, le premier que je vais lire, est dédié à Elisabeth Schwarzkopf. Certains d'entre vous l'ont certainement entendu chanter. Pour moi, elle est là. D'ailleurs, le poème est titré Assoluta. Chez les Italiens, une assoluta, c'est la cantatrice de référence, inégalée, inégalable, une absolue, une assoluta. Et Elisabeth Schwarzkopf a été, je dis selon moi, c'est absurde, parce que c'est selon beaucoup d'autres que moi, et plus autorisée, la grande cantatrice du XXe siècle. Elle a vécu de 1915 à 2006 et elle a particulièrement excellé dans un domaine qui est pour moi un domaine de prédilection, c'est celui du lied, notamment évidemment le lied romantique allemand, Schubert, Schumann et tous ces compositeurs, les compositeurs qui sont dans cette veine-là. Alors je lis ce premier poème qui est dédié à Dame Elisabeth Schwarzkopf, parce qu'elle avait été anoblie par la reine d'Angleterre. À celle qui chantait la couleur inventée par les voix du soir, j'offre un peu de ma vie suspendue à ses lèvres. Je l'écoute parler au son, vivant, sous le signe amoureux des lointains qu'elle avait dans les yeux, venue d'un ailleurs absolu, enfanter le sphinx, et l'énigme qui nous rive la terre au ventre, à la soif éblouie par la source, au vol d'oiseaux sur les chemins, à la pierre chaude en forme de cœur, gardée au creux de la dernière main, refermée sur l'ultime note, parvenue au seuil de son silence. Et le second s'intitule Artemisia. Artemisia était un grand peintre de la Renaissance, fille elle-même d'un peintre, Orazio Gentileschi. Pourquoi ce visage étonné d'entendre en vous monter la même voix que celle de l'ange habité par des ailes qui sont vos pommettes? Il y a dans vos yeux une nuit à ne pas mettre entre toutes les mains. Vos yeux, je les regarde. Ils sont ceux d'une navigatrice aux étoiles. Si vous les posiez sur un homme, il oublierait qu'il est mortel, survivant, près du tas de cailloux qu'il a lancé contre le ciel, et rien. Fidèle à ce vieux mur de pierre auquel un maçon amoureux a donné du fruit pour toujours.
Cet extrait de L'abîme horizontal, qui est, je pense, votre dernière publication, c'était en 2008, à la différence.
Moubarak, si tu me permets, je voudrais en profiter pour, vous faites bien d'évoquer, pas particulièrement le titre du livre, mais publié aux éditions de la différence, et c'est pour moi l'occasion, surtout sur une radio, de rendre hommage à l'éditeur qui a fondé les éditions de la différence il y a 30 ans, car lui aussi était un immigré, c'était un Portugais, fou amoureux de la France, qui avait pratiquer les geôles de qui vous savez, là-bas au Portugal, et qui avait survécu à tout ça, et pour qui la France représentait vraiment, la langue française, une sorte de rivage rêvé. Et alors, ce qui est déchirant, c'est que cet homme, qui était jeune encore, puisqu'il avait 60 ans, et qui rêvait de finir sa vie en France et d'être enterré au Père Lachaise, parmi tous ceux qu'il aimait et qui l'avaient précédé, a trouvé le moyen, pour des raisons familiales, de prendre un jour un avion, de filer à Lisbonne, de s'arrêter à la terrasse d'un café, celui à la terrasse duquel il y a la statue, la fonte de Pessoa, attablée comme ça pour l'éternité à la terrasse qu'il avait l'habitude de fréquenter. Et Joachim Vital est mort brutalement d'un infarctus massif. Alors, voilà, je crois que c'est un hommage qu'il fallait lui rendre. Excuse-moi, Moubarak.
Moi, je vais faire comme mon ami Esdemir. Je vous lis en arabe. Et c'est Olivia Nicosia qui vous lira la traduction française. Abadia, وكأنها الأبدية محمولة بين مخالب نسر كل هذا البياض المدمع وكأني الامتداد الحي لزوبعة غامضة النوايا أألتفع بحرير الشمس وأصيخ السمع لهذا الندى الذي يموء في حداق الخزامى أأحد النسيم إلى مسقط رأسه خلال هذا النهار الأكثر خضرة من كارثة أم أبقى في هذه الغرفة النظيفة إلا من دماء الأحد.
Éternité. On dirait l'éternité portée entre les serres d'un aigle, tout ce blanc ensanglanté. Comme si j'étais le prolongement vivant d'une tempête au sombre dessin. Me couvrirai-je de la soie du soleil et tendrai-je l'oreille à cette rosée qui miaule dans les prunelles de la lavande? Suivrai-je la brise jusqu'à son berceau en ce jour plus vert qu'une catastrophe? Ou resterai-je dans cette chambre nettoyée sauf des sangs du dimanche?
Moubarak est en train de chercher le prochain texte qu'il va nous lire. Vous l'avez trouvé, allons-y. Le texte est trop long, il en cherche un autre. Mais nous avons le temps. On est bien là, on est au frais.
Hatta Sahara. أفكر لما كل هذه الدموع التي تتشكل خفية تحت أظافرنا ولما تتوجس الأشجار من شعوب العصافير أفكر يجب أن نستمر في السير حتى الصحراء التي تنبت فيها المسامير أحيانا يبدو لي أنه لا مبرر لوجودي سوى أني زاوية في متلة رعشات برق في غابة شرر في عيون الصيف.
Jusqu'au désert. Je me dis, pourquoi toutes ces larmes se formant subrepticement sous nos ongles? Et pourquoi les arbres appréhendent-ils la peuplade de moineaux? Je me dis, nous devons poursuivre notre marche jusqu'au désert où poussent des clous. Parfois, il me semble que mon existence n'a pas raison d'être et que je ne suis qu'un angle dans un triangle de vibrations, un éclair dans une forêt, une étincelle dans les yeux de l'été.
Voilà, c'était extrait de « Un éclair dans une forêt » qui est sorti cette année, en juillet 2010. Donc il y a des livres de poésie qui sortent régulièrement et partout, même à l'heure d'internet et des outils modernes entre guillemets.
Oui, il est publié chez Almanar. Oui, Almanar il publie beaucoup de poètes arabes, marocains, algériens, égyptiens.
Dans la collection Le Voix Vive.
Et français aussi, bien sûr.
Tu oublies de dire que ça veut dire le phare.
Ah oui, en arabe. Oh. Oui, Al-Manar, en arabe, ça veut dire le phare. C'est d'ailleurs le poète français François qui s'en est rappelé.
Non, mais c'est très réconfortant de parler du livre aussi 2 minutes par rapport à... Au fameux, comment est-ce que ça s'appelle ça, le livre internet, là, je sais pas
le
quoi.
E-book.
Hein, je voulais pas que vous le disiez, hein, mais il l'a encore dit en anglais.
Bon. Le livre dématérialisé.
Et bon, alors on annonce sans cesse la mort du livre. Je crois que le livre aura la mort longue, très longue, parce qu'il est irremplaçable. D'abord, Il faut se pénétrer d'une vérité, c'est que ce qui est imprimé est indestructible. Et on ne peut pas remplacer le plaisir de tenir l'objet, je ne prends pas spécialement le mien, hein, mais dans la main, comme ça, dans la poche, dans un train, dans le métro. Moi, je suis stupéfait de voir le nombre de gens qui lisent dans le métro. J'habite une grande ville, chaque fois que je vais dans un métro, je vois plein de gens qui lisent, que ce soit à Paris, à Lyon ou à l'étranger, et je ne les vois pas sortir leur ordinateur de leur poche pour regarder. Et on ne peut pas faire défiler des pages comme ça, lire des pages sur un écran. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas le même univers. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. Voilà.
C'est plutôt parfois le discours de grandes maisons d'édition qui disent que le livre est mort, histoire d'apitoyer un petit peu les pouvoirs publics sur leur économie.
On retourne au poème. Je vous lis un autre en arabe. كنت من أبطالي هوميروس أريد أن يبقى النسيم على أناقته أن تحضر الفرس في الموعد وأن تمضي بي في الوجهة التي تختار أريد نهرا يوشح صدري فالبارحة رأيت في الحلم أني نازلت آخيل في الإليادة في الواقع لا أصر على شيء من هذا فأنا الآن هادئ وعيناي وحدهما العنيفتان.
J'étais un des héros d'Homère. Je veux que la brise reste élégante, que la cavale soit exacte au rendez-vous et m'emporte dans la direction de son choix. Je veux pour distinction un fleuve accroché à ma poitrine, car hier je me suis vue en rêve bravant Achille comme dans l'Iliade. À dire vrai, je ne tiens à rien de tout cela, car je suis maintenant calme, seuls mes yeux sont violents.
Vous noterez que nous n'applaudissons qu'après la traduction.
Oui, on ne sait jamais.
Je vous lis encore un poème assez court. أقبل الفجر أخيرا أقبل الفجر جريحا وقد حرر أجنحته من أصفاد الخرافة وقتها سار الفرح قانيا من أنوفنا التي ما عادت تتعرف علينا لسنا وحدنا الحيارى.
L'aube est arrivée. Enfin. L'aube est arrivée, blessée, après avoir libéré ses ailes des fers de la légende. Au même moment, l'allégresse a coulé, pourpre, de nos nez qui ne nous reconnaissaient plus. Nous ne sommes pas les seuls désemparés.
Oui. Je démire une autre lecture, peut-être ? Ah bien oui, je pense que nous voulons qu'ils veulent. Extrait de Mani est vivant.
Et oui, prix Max Jacob étranger en 2006.
Je vais essayer de lire un poème en français. Inutile de me perdre dans une ville aux rêves tumulteux, avec un corps de glaise. Inutile de me transformer en feu insomniaque. Je ne suis pas une eau morte, ni ne suis cendre chaude. Aucune nécessité de cacher mon nom si je ne puis me baptiser dans mes propres eaux. Que faire alors de moi qui suis moi? Moi sans registre, moi privé d'héritage, incarnation dans un apologue d'un demi-frère sans sou. Panaché sur le lac Mariotis, je contemple 100 fois le reflet de moi qui deviendra moi. Ma première moitié est dans l'Atlas. La seconde est terre de nuit sans porte ni sommeil. Ma troisième moitié s'assoit face au feu. Ma quatrième, résurrection fixe, le ciel à travers Alexandrie. Cité hybride d'Iblis.
Nous sommes toujours à Voix Vive de Méditerranée, à Méditerranée à 7. Il nous reste quelques minutes. Vous vouliez, François Montmarex, nous parler de quelqu'un.
Lui donner la parole plutôt, et je vais vous faire un grand cadeau. Puisqu'on est entre amis, un auditoire que la poésie affectionne, et avec bien sûr l'autorisation de l'auteur et celle de l'organisatrice du festival, Maïté, il se trouve que deux poètes ont beaucoup marqué, de façon différente évidemment, ne serait-ce que par la tonalité de leurs œuvres respectives, ma jeunesse. C'est Paul Valéry et Yves Bonnefoy. Yves Bonnefoy que j'ai connu quand j'avais 15 ans, lorsqu'il a fait paraître en 1953 Du mouvement et de l'immobilité de Douves. Et je me serais bien gardé de chercher à m'introduire dans son intimité, mais les circonstances ont fait qu'il y a quelques années à Lyon, nous nous sommes rencontrés et que depuis, nos relations se sont beaucoup approfondies, à tel point qu'il m'a fait l'amitié et la confiance de m'envoyer un manuscrit de ses tout derniers sonnets qui vont paraître au mois de septembre. 28 sonnets magnifiques, et avec son accord, je le précise bien, et voulant lui donner la parole ici, où il avait, où toute sa place, que seules les circonstances lui empêchent d'occuper, vous lire trois de ses sonnets sous le nom de « Le nom perdu ». Un vieil homme à même le sol, devant l'autel, à deux pas de la plage, il dit qu'il va mourir. On se penche sur lui, il se détourne. Il dit encore qu'il voudrait que tout vaque à son ordinaire. Autour de lui, dans ce lieu de hasard, que les gens entrent et sortent, que les servantes chantent en dressant les tables, qu'elles rient avec les clients. Et pourtant, à l'adolescent qui s'agenouille, « Ah, prends ce livre, dit-il, un nom est là. Dis-moi ce nom que je cherche. » Ce livre, des pages déchirées qu'il tient serrées, deux ombres sous des vitres tachées de boue, peut-être est-ce le reste d'un annuaire. Il desserre ses doigts, des feuilles tombent. Rassemble-les, implore-t-il, le nom est là, hélas, parmi tous ces autres. Il dit encore, oui, qu'il est là, qu'il l'a su. Dans d'autres mondes, des vagues drossent le ciel contre la terre. Deux enfants s'éloignent sans fin sur une plage. Il a fermé ses yeux. Il tend ce qu'il y reste du livre. « Dis-moi, dit-il, le nom qui consume le livre. » Un nom, quelque chose de rond et de lumineux, immobile, comme celui de la servante de Proust. Ah oui, à bout portant, faire feu. Le blesser à l'épaule, lui qui se dresse, qu'il tressaille, retombe, apaisé dans la vie qui sera sans fin. Je vois ces deux qui se parlent. L'un aide l'autre à se mettre debout, puis il s'éloigne. Le fils soutient le père. Ils disparaissent au bout du quai, près du tas de charbon. Leur départ, c'est étrange comme la nuit.
Donc des textes à paraître au mois de septembre. Ce sera...
28 sonnets qui sont de cette teneur et que personnellement je trouve absolument extraordinaire et qui paraîtront au mois de septembre, chez Galilée.
Voilà, dont les auditeurs de Radio PDO, Radio Languedoc, Radio Aviva, Divergence FM ont aujourd'hui la primeur.
L'absolue primeur, oui.
Merci beaucoup. Je crois qu'on touche à peu près au terme de ce rendez-vous radiophonique, qui était le dernier, précisons-le, pour cette première édition de Voix Vive.
Exactement. Enfin, cette première édition, disons, cette émigration de Voix de la Méditerranée continue, c'est la même équipe. Ah, si tu lis l'édito dans le programme de Voix Vive.
Oui, c'est la même équipe, mais Voix de la Méditerranée reste...
L'équipe est allée à 7.
Demeure toujours présente à l'ODEV, et on s'en est rendu compte, puisque les plateaux radiophoniques ont continué aussi.
Mais tant mieux, qu'il y ait de la poésie partout, et ça sera très bien. Le monde s'emportera parfaitement bien. On va remercier... nos invités.
On remercie nos invités, Moubarak Wassat, Özdemir Inch, François Montmanex, en vous souhaitant de bien terminer ce festival. J'imagine que vous y êtes un petit peu dedans, donc vous y serez aussi l'an prochain, j'imagine. Un festival qui, on a cru le comprendre aussi, a peut-être vocation à traverser la Méditerranée et à se déplacer. Donc on tiendra nos auditeurs au courant de l'évolution des choses. Et devant le dynamisme de Maïté Vallès-Bled, de gageons que ça sera sans doute le cas. On remercie aussi Radio Pays d'Hérault qui a coordonné et réalisé toutes ces émissions. Aujourd'hui, c'était Olivier qui nous accompagnait
Olivier
à la régie.
Constant. Merci.
Et on vous souhaite à tous de bien terminer ce festival.
Voilà, bonne fin de festival.
Poète au présent.
Cómo disolver una casa. La estructura de canela simple, sólida en la memoria.